La parole de Dieu dans le psaume 16, verset 10 dit qu'il y a d'abondantes joies de la présence de l'Éternel. Et vendredi dernier, j'ai vivement ressenti cette joie-là. Ça m'a pénétré jusque dans mes entrailles de voir le peuple de Dieu se réunir pour célébrer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Quoique c'est sa mort que nous célébrions, mais on ne l'a pas fait dans les larmes ni dans le deuil, mais on l'a fait dans la joie. La mort du Christ est tellement significative pour nous, et sa résurrection aussi l'est tout autant. Je remercie pour Dieu pour les prédicateurs qui nous ont parlé de la croix dans une profondeur extraordinaire. Ils ont parlé sur les 7 paroles de Christ prononcées à la croix. 7 paroles d'espoir, 7 paroles d'espérance, paroles vivantes, paroles qui pardonnent, paroles qui font miséricorde, parole de douleur, parole de souffrance, mais aussi parole de victoire et de triomphe, parole testamentaire. Aujourd'hui, on va relater ensemble les événements entourant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, quelques événements pour pouvoir cibler quelque chose à dire, parce que vous comprenez que c'est trop large pour faire un partage comme ça aujourd'hui. Premièrement, on peut parler de l'ouverture du tombeau. Comme Félix l'a dit tantôt, il y a 3 étapes à cette ouverture du tombeau. La première, c'est un tremblement de terre. C'est le deuxième en l'espace de 3 jours, puisqu'il y avait aussi un tremblement de terre à la mort du Seigneur. La deuxième étape, un ange du ciel vient rouler la pierre. La troisième étape, c'est qu'il y avait une garde romaine, des soldats qui avaient l'autorité d'empêcher à quiconque de faire rouler la pierre. Mais il n'avait pas l'autorité et ni la puissance pour empêcher un ange du ciel de rouler la pierre. Dieu respecte l'homme dans les plus petits détails. Il n'a pas envoyé une armée humaine. Il n'a pas voulu se soulever contre l'autorité qui était en place, même si cette autorité s'était imposée par la force. Il n'a envoyé aucun être humain pour le faire. Mais cette autorité-là, qui était ici-bas, n'avait aucune autorité sur le ciel. Il envoie un ange du ciel. Il y a eu l'arrivée des femmes dans le jardin. Les femmes s'étaient divisées en 2 groupes. Marie Magdala était partie seule. Elle est arrivée en premier. Et ces femmes-là avaient une grande affection pour le Seigneur. Mais elles sont parties dans le tombeau non parce qu'elles voulaient assister à la résurrection. Elles ne croyaient pas à la résurrection du Seigneur. Elle se demandait, mais qui va pouvoir nous aider à passer par là? Qui va rouler la pierre? Leur but, c'était d'aller embaumer le corps du Seigneur, parce qu'ils ne croyaient pas, elles ne croyaient pas qu'il était ressuscité. Elles voulaient donner des soins à un corps mort. C'était pour embaumer le corps du Seigneur, et non pas pour le voir ressuscité. lorsque Marie de Magdala arrive, eh bien, elle voit que la pierre a été poussée. Le tombeau est vide. Elle n'a pas eu le temps, elle est partie avant de parler aux anges. Elle est toujours triste. Après ça, il va arriver l'arrivée des autres femmes qui vont voir deux anges. Mais la conversation va se faire avec seulement un ange. Et l'ange va lui dire, il n'est point ici, il est ressuscité. Et Luc va rapporter plus encore la conversation. Il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il l'avait dit. Il l'avait dit qu'il allait souffrir, qu'il allait être crucifié et qu'il allait ressusciter aussi. Vous savez, dans certaines occasions ou dans certains moments de la vie où on est perplexe, où on ne sait pas trop quoi faire, même dans les moments de litige ou dans les moments de conflit, il est bon que quelqu'un vienne nous dire, souviens-toi, qu'est-ce que le Seigneur a dit. L'ange a dit exactement la parole à propos, la parole que ces femmes devaient entendre. Ces femmes étaient décentrées. Il les a recentrées sur la parole du Christ. Souviens-toi, qu'est-ce qu'il avait dit? Effectivement, Marie va retourner dans le jardin. Et là, elle va voir deux anges qui vont s'approcher d'elle. Elle pleurait. Les anges lui dirent, mais pourquoi tu pleures? Et finalement, vient celui que son cœur aimait tellement. Son maître, Jésus-Christ. Elle n'avait pas encore reconnu le Seigneur. Et le Seigneur, d'un ton familier, va lui dire son nom, Marie. Et là, elle reconnaît la voix de son berger. Elle a voulu le prendre dans ses bras, s'accrocher à elle. Le Seigneur dit non, 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 pas tout de suite. Ne me touche pas, en d'autres termes, ne me retiens pas. Je ne suis pas encore monté au ciel. J'aimerais qu'on lise ensemble la première lecture de ce que Jésus-Christ va dire à la première personne qu'il a vue ressusciter. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Le Seigneur aurait pu dire à Marie de Magdala, « Va trouver mes disciples. » Elle aurait pu dire, il aurait pu dire aussi, « Va trouver mes serviteurs » ou même « Va trouver mes amis ». Ça aurait été convenable, ça aurait été correct. Mais là, il dit « Va trouver mes frères ». La résurrection établit un nouveau lien maintenant entre les croyants et Jésus-Christ. Jésus-Christ appelle les croyants ses frères. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi, nous pouvons l'appeler notre frère. On n'aurait pas pu l'appeler ainsi si lui ne nous appelle pas le premier ainsi. Effectivement, Marie de Magdala va faire le rapport et devinez quoi? On ne l'a pas cru. Elle va le dire à Pierre qu'il ne l'a pas cru. Les autres femmes, le Seigneur va aussi aller à leur rencontre. Le Seigneur va dire la même chose. Lisons le deuxième passage. Et voici, Jésus vient à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Encore une fois, il dit, « Mes frères. » Sommes-nous conscients que Jésus est notre frère? Sommes-nous conscients que lorsqu'il parle du Père pour nous, il nous parle ainsi, mes frères, à son Père? Et si vous avez bien regardé, ce n'est pas juste une expression comme pour dire, parce que, par exemple, des joueurs de hockey dans une chambre peuvent se considérer comme des frères. Mais regardez l'expression du Seigneur. « Va dire que je suis allé vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il y a une intimité et une intimité qui va être présente pour l'éternité. Pour l'éternité, Jésus-Christ sera notre frère. Pour l'éternité, il ne peut nous renier. Écoute, même si mon père serait le pire des criminels, je ne pourrais jamais dire qu'il n'est pas mon père. Et même si, des fois, nous passons à côté, Jésus-Christ ne pourra jamais dire que nous ne sommes pas ses frères. Parce que Dieu nous a adoptés dans sa famille. Votre Dieu est mon Dieu. Mon Père est le vôtre aussi. Quel amour. Pierre et Jean vont s'empresser d'aller voir le tombeau. Et Jean est un petit peu plus jeune, donc il avait plus de gaz que Pierre. Il est arrivé en premier, mais Jean n'est pas entré. Il s'est baissé et il a vu les bandes qui enroulaient le Seigneur, toujours enroulées. Pierre va apparaître un peu plus tard, il voit les bandes enroulées, et Pierre là se demande, il reste perplexe, il doit se demander qu'est-ce qui se passe. Pierre ne croit pas encore à la résurrection de notre Seigneur. Le Seigneur va se présenter après aux disciples d'Emmaüs. Eux autres, ils croyaient dans le ministère de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas cru à la résurrection. Et là, le Seigneur va faire un petit geste, comme notre très honorable pasteur a fait un petit geste avec les enfants. Du chocolat. Et lorsqu'il va prendre le pain, et j'imagine qu'il les regarde, et il fait crac. Là, ils reconnaissent, c'est le Seigneur. Et là, le Seigneur disparaît. Tantôt, ce n'était pas quelque chose d'intime, par sa voix, que Marie de Magdala l'avait reconnue. Et là, c'est par un autre geste intime. Finalement, le Seigneur va se présenter aux autres disciples. Il y en manquait un. Et lorsqu'ils ont vu le Seigneur, devinez quoi? Ils ont cru que c'était un fantôme. Là, j'imagine, le Seigneur va dire encore drôle, les autres. C'est la deuxième fois qu'ils me prennent pour un fantôme. Imaginez-vous, les disciples du Seigneur l'ont confondu deux fois à un fantôme. Vous vous souvenez, lorsqu'il a marché sur l'eau, Et les disciples avaient la trouille, la peur de leur vie. Vous savez, la peur, c'est lorsqu'on est en danger ou on peut la ressentir lorsqu'on croit qu'on est en danger. Le Seigneur leur avait dit, c'est moi. Pour ça, le Seigneur leur donne un court enseignement que le monde entier oublie. Il dit, un fantôme, ça n'a ni chair ni corps. C'est moi. Et voilà qu'il arrive de nouveau, on le prend pour un fantôme. Vous savez, si quelqu'un me pose la question, Pierre, est-ce que tu crois aux fantômes? Je vais lui dire certainement que oui. Les fantômes, c'est tout simplement des mauvais esprits. Mais si quelqu'un me dit, Pierre, allons dans le coin, il y en a un qui est là, allons le voir. Là, je vais être obligé de dire, tu as peut-être vu quelque chose, mais ce n'était pas un fantôme. Parce que le Seigneur a dit, un fantôme n'a ni corps ni chair. Point final. Oh oui, mais il est peut-être entré dans un chat. Mais tu as vu un chat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la culture nous influence à un point qu'on n'imagine même pas. Ça veut dire que dans leur arrière-plan culturel, les disciples avaient la croyance des fantômes. Malgré tout l'enseignement que le Seigneur leur avait donné, ce petit germe-là n'était pas encore sorti. Ils étaient des hommes ordinaires, très ordinaires. La culture, il ne faut pas la sous-estimer. Mais il faut que l'écriture supplante la culture. Finalement, il en manquait un. Vous le connaissez, Thomas. Et Thomas, on est injuste avec lui. Parce que Thomas est devenu le symbole du scepticisme. Lorsqu'on n'y croit pas à quelque chose, c'est son nom qu'on invoque. Chez moi, dans mon pays, c'est ça, on dit, moi je suis Saint Thomas, on l'appelle comme ça. Je suis Saint Thomas, tant que je ne vois pas, je ne crois rien. En québécois, on dit, tant que je ne verrai pas, je ne créerai pas. Mais c'est injuste envers Thomas parce que tous les autres n'ont pas cru, à l'exception de Jean. Jean, il a cru. Mais qu'est-ce qui a amené Jean à croire? Il s'était baissé et il a vu les bandes qui étaient encore enroulées. Souvenez-vous, à la résurrection de Lazare, le Seigneur avait dit, ôte-lui les bandes. On avait déroulé les bandes. Mais là, il voit les bandes enroulées. Ça veut dire que le Seigneur a passé son corps à travers les bandes. Et nous le savons plus tard que son corps ne pouvait plus heurter la matière. Il pouvait passer à travers les murs. Ce qui m'amène à vous dire cette chose. L'ange qui a roulé la pierre, ce n'est pas pour Jésus qu'il a roulé la pierre. Ce n'est pas pour libérer Jésus du tombeau. C'était pour que les disciples, les femmes puissent entrer dans le tombeau. Jésus-Christ n'avait pas besoin que l'ange roule la pierre. Il pouvait lui-même passer à travers la pierre. Les femmes ont été voir les disciples, ils n'ont pas cru. Ça fait beaucoup de messages. Parce que le Seigneur leur avait dit à la Pâque, Restez pas à Jérusalem lorsqu'on va me crucifier. Allez en Galilée. À ma résurrection, je vais vous voir là. Ils n'ont pas été. Pourquoi ils ne croyaient pas que le Seigneur allait ressusciter? Le Seigneur va leur dire encore par Marie de Magdala, les anges vont dire, allez leur dire, vous allez me rencontrer en Galilée. Ils ne sont pas partis en Galilée. Finalement, le Seigneur doit aller les voir lui-même. Mais les femmes ont obéi. Les femmes auraient pu dire au Seigneur, ils ne vont pas me croire, Seigneur. Nous souvenez-vous qu'à l'époque, la loi juive, le témoignage d'une femme n'était pas valide. Eh oui, c'était comme ça. Que le Seigneur envoie une femme, c'était contre la tradition de l'époque. Donc elle aurait pu dire, tu sais très bien, en tant que femme, ils ne vont pas croire en mon témoignage. Ils ont la tête dure, Seigneur, ils ne me croiront pas. Non, elles ont obéi. Et maintenant, si le Seigneur te dit, va dire à mon voisin que je suis ressuscité, qu'allons-lui le dire? Qu'est-ce que nous allons lui dire? On va trouver toutes sortes de défaites. Seigneur, même tes disciples n'ont pas cru en toi. Comment tu veux que mon voisin croie en toi? Après tout près de 2000 ans, comment tu veux qu'il croie? Mais le Seigneur dit, va annoncer mes vertus. Le message de la résurrection, c'est un message qui est nécessaire pour le salut. Il faut croire dans ce message-là. On va lire ensemble Romains 10, verset 9, et nous allons voir que c'est une nécessité de croire que Jésus-Christ est ressuscité. Je lis pour vous. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une nécessité. Je sais qu'aujourd'hui, on cherche toutes sortes d'approches, parce que le monde est au cerf à l'Évangile. Et puis on veut d'abord les rejoindre dans leurs préoccupations, si c'est l'écologie, si c'est la santé mentale, si c'est les soucis de la guerre qui pourraient s'éclater même ici. Bref. Je comprends qu'on essaye d'établir un contact, mais il faut que ça aboutisse à la croix. La croix, c'est un incontournable pour le salut des hommes et des femmes. Si on reste à discuter d'écologie, même s'il y a des choses intéressantes à dire, ça ne changera rien. Tout homme, toute femme a rendez-vous avec le Seigneur à la croix. Annoncez ce message. J'aime le chant, un chant qui nous le commande. Parce qu'on a des chants de prière, on a des chants de louange, on a des chants d'adoration. Il y a un chant de commandement. Dites-le fort. Encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Alors que nous chuchotons lorsque nous parlons de résurrection ou nous en parlons que seulement à Pâques, le Seigneur vous envoie. Tout comme il a envoyé Marie de Magdala, il vous envoie. Allez dire au Québec que je suis ressuscité et que je suis vivant. Nous allons le dire à nos enfants, à nos petits-enfants. on va les conduire à la croix. Que l'Esprit Saint nous aide à conduire nos amis à la croix. Et lorsqu'on va arriver à la croix, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va juste se tenir à la croix pour regarder les souffrances du Seigneur? Non. Voilà ce qu'on va faire à la croix. On va mourir avec lui. Et si on meurt avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Pour ceux qui croient, vous avez déjà la première résurrection. Vous êtes ressuscité. Votre course commence un peu par la fin. Mais il y aura une deuxième résurrection. Un autre passage qui nous montre l'importance de la résurrection, c'est Romains 1, 4, si ma mémoire est fidèle. Jésus-Christ, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette déclaration justifie toute l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, la justice humaine, il y a eu un procès religieux et la justice humaine n'a pas cru que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Celui qui a le pouvoir de justifier tout homme et toute femme devant Dieu, lui, devant la justice humaine, il n'a pas été cru. Il fallait qu'il soit ressuscité. Et la parole de Dieu nous dit que la mort ne pouvait pas le retenir en terre parce que la justice de Dieu a été rencontrée. La justice de Dieu a été satisfaite. Un troisième verset, je pense, c'est Romains 4, 25. Lequel a été livré pour nos offenses et en est ressuscité pour notre justification. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous garantit que nous aussi, nous serons ressuscités. Maintenant, pour comprendre l'importance de tout cela, pour comprendre l'importance d'une chose, des fois, il faut évoquer le contraire. Par exemple, la majorité d'entre nous, nous avons un char, n'est-ce pas? Et on va s'imaginer qu'on n'a plus de char. Donc, certains d'entre nous feraient une syncope, pas vrai? Ah oui, et ça change nos vies. Là. Si on enlève un char, là, vous allez voir, là, c'est pas évident. On va changer nos habitudes, prendre le transport en commun. Ça va nous permettre de rencontrer des gens, de jaser un peu. Peut-être faire une lecture d'un livre. Ça va nous permettre de faire des marches un petit peu plus souvent. Donc, ça va contribuer à notre santé. Finalement, ce n'est pas si pire. Mais imaginons que le Christ n'est pas ressuscité. Alors, ça change. Ça change. Paul a imaginé cela aussi. Il dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Notre foi est vaine. Ça veut dire qu'on a prêché pour rien. Notre foi n'a aucune implication éternelle. On a chanté pour rien. On a prié pour rien. On a été persécuté pour rien. Sans notre foi, notre message est vide de sens. Sans cette résurrection, vide de sens complètement. Si Jésus-Christ est resté dans le tombeau, il ne peut intercéder pour nous dans le ciel, comme Pasteur Félix nous rappelait tantôt. Il n'y aurait même plus de jugement. C'est lui qui doit juger. Si le Christ reste dans le tombeau, l'obscurité qui avait envahi la terre serait encore là. Et la terre aurait continué à trembler. Et nous, nous n'aurions pas de salut. Ça, c'est dramatique. Mais il est ressuscité. Et ça change tout. Ça change le décor complètement. J'aimerais dire que la victoire du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas comme la victoire d'une équipe à domicile. La parole de Dieu nous dit que par sa mort, il a vaincu la mort. Ce n'est pas une victoire à domicile, du haut des cieux, le Seigneur remporte la victoire sur la mort. Non, il a dû descendre dans les profondeurs, il a dû rentrer même dans le domaine de Satan. Il est rentré dans le territoire de la mort pour pouvoir vaincre la mort. Ce n'est pas une victoire à domicile. Avec le secours des fans, il n'avait aucun fan. La foule se pressait pour voir, qu'est-ce qu'elle a chanté tantôt ? Le condamné. Il est seul. Et ça nous montre quelle est la grandeur de Jésus-Christ. Avant de vous quitter, la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse nous dit que Jésus-Christ détient les clés de la mort. Ça veut dire que la mort n'a aucune autorité sur lui. Aucune redevance envers la mort. La mort n'a aucun pouvoir sur lui, aucune puissance. Il a les clés dans ses mains. Dites-le fort, encore plus fort. Allez, annoncez ce que Dieu a fait. Prions le Seigneur. Seigneur, comment te dire merci? C'est dans notre vocabulaire humain, on est limité par ce petit mot « merci ». Et je suis sûr, Seigneur, lorsque on va se voir dans l'éternité bienheureuse qui commence déjà pour nous, ton peuple, lorsqu'il te dira « merci, merci », je suis sûr que tu vas emprunter une expression humaine pour nous dire « voyons, de rien du tout, parce que tu es ce Dieu qui est humble. Merci d'avoir descendu dans les profondeurs. Nous ne pouvons même pas, Seigneur, théologiquement expliquer c'est quoi les profondeurs. On a essayé, Seigneur, on n'y arrive pas. Toi seul le sais. Tu as été jusque dans les profondeurs de la souffrance, les profondeurs de la douleur, les profondeurs du rejet. Et tout ça, eh bien, c'est pour qu'on puisse, nous, trouver une place dans la famille de ton Père. Merci que tu nous as adoptés comme tes frères. Nous sommes tes petits frères, Seigneur. Et merci aussi pour le ministère de Pasteur Jeff qui s'est accompli. Sois glorifié, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.